Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici de nouveau ensemble, donc, pour la suite des aventures de Gargantua de François Rabelais. Et que diable, dit le moine, allons-nous faire ? Estimez-vous les hommes d'après leur nombre ou d'après leur vertu et leur courage ? Puis il s'écria : Cognons ! Diable ! Cognons ! En entendant cela, les ennemis pensaient que, pour de bon, c'était de vrais diables, et en conséquence commencèrent à fuir à bride abattue, excepté Tiravant, qui mit sa lance en arrêt et en frappa de toutes ses forces le moine au milieu de la poitrine. Mais en heurtant l'horrifique froc, il écacha son fer comme si vous frappiez avec une petite bougie contre une enclume. Alors le moine, avec son bâton de croix, l'atteignit entre col et collet sur la crête de l'omoplate si rudement qu'il l'assomma et lui fit perdre toute connaissance et tout mouvement. Il tomba au pied du cheval. En voyant l'étole qu'il portait en écharpe, frère Jean dit à Gargantua : Ceux-ci ne sont que prêtres, ce n'est qu'un commencement de moine. « Par Saint-Jean, moi je suis un moine accompli, je vous en tuerai autant que mouche !» Puis il leur courut derrière au grand galop, si bien qu'il rattrapa les derniers, il les abattait comme seigle en frappant à tort et à travers. Sur l'instant, Gymnaste demanda à Gargantua s'il devait les poursuivre. Gargantua répondit : Absolument pas. En bonne règle militaire, il ne faut jamais acculer son ennemi au désespoir. Une telle extrémité multiplie ses forces et accroît son courage déjà abattu et défaillant. Il n'y a pas de meilleure chance de salut pour des gens ébranlés et à bout de fatigue que de n'espérer aucun salut. Combien de victoires ont été arrachées par les vaincus des mains des vainqueurs, quand ceux-ci ne se sont pas raisonnablement limités ? Quand ils ont voulu anéantir complètement leurs ennemis et les détruire totalement, sans accepter d'en laisser un seul pour aller porter les nouvelles. Ouvrez toujours à vos ennemis toutes les portes et tous les chemins. Allez jusqu'à leur faire un pont d'argent pour les faire revenir sur leurs pas. Certes, dit Gymnaste, mais ils ont le moine.
Ils ont le moine, dit Gargantua.
Oh, sur mon honneur, ce ne sera qu'à leur dépens. Mais pour parer à toute éventualité, ne nous retirons pas encore. Attendons ici en silence, car je pense déjà connaître suffisamment la tactique de nos ennemis. Ils s'en remettent au hasard plus qu'ils n'obéissent à la raison.
Pendant qu'ils attendaient ainsi sous les noyers, le moine continuait la poursuite, cognant tous ceux qu'il rencontrait sans avoir pitié de qui que ce fût, jusqu'au moment où il rattrapa un cavalier qui portait en croupe un des pauvres pèlerins. Alors, comme il voulait abattre l'autre, le pèlerin s'écria : « Ah, monsieur le prieur, mon ami, monsieur le prieur, sauvez-moi, je vous en prie !» En entendant ces mots, les ennemis se retournèrent. Et voyant que le moine était seul à faire tout ce raffut, ils le chargèrent de coups comme on charge un âne de bois. Mais il ne sentait rien du tout, surtout quand il frappait sur son froc, tant il avait la peau dure. Ensuite, ils le donnèrent à garder à deux archers, et tournant bride, ils ne virent personne leur faire face, et en conclurent que Gargantua s'était enfui avec sa troupe. Ils galopèrent donc vers les Noirettes aussi rapidement qu'ils purent pour les rattraper et laissèrent sur place le moine seul avec deux archers pour le garder. Gargantua,
entendit le bruit et les hennissements des chevaux et dit à ses gens : « Compagnons, j'entends le train de nos ennemis et j'aperçois déjà quelques-uns d'entre eux qui viennent sur nous en masse. Regroupons-nous ici et avançons en bon ordre. Ainsi, nous pourrons les recevoir à leurs dépens et tout à notre honneur. »
Comment le moine se débarrassa de ses gardes et comment la patrouille de Picrocole fut défaite.
Le moine, en les voyant s'éloigner ainsi en désordre, présuma qu'ils allaient fondre sur Gargantua et ses gens et se contristait grandement de ne pouvoir les secourir. Alors il avisa l'attitude de ces deux archers de garde qui auraient volontiers couru derrière la troupe pour faire quelques butins. Ils regardaient sans cesse vers la vallée où descendaient les autres.
Frère Jean se mettait à raisonner en se disant « Ces gens-ci sont bien peu expérimentés en matière d'armes, car ils ne m'ont pas une fois demandé ma parole et ne m'ont pas ôté mon braquemar. »
Aussitôt, il tira le braquemar en question et en frappa l'archer qui le gardait à droite, lui coupant complètement les veines jugulaires et les artères carotides avec la luette jusqu'aux amygdales, et en retirant son arme, il lui fendit la moelle épinière entre la deuxième et la troisième vertèbre.
L'archer tomba là, raide mort. Et le moine, tournant son cheval à gauche, fonça sur l'autre, qui, voyant son compagnon mort et le moine en posture favorable contre lui, criait d'une voix forte « Ah, monsieur le prieur, je me rends, monsieur le prieur, mon bon ami, monsieur le prieur !»
Le moine criait sur le même ton
« Monsieur le postérieur, mon ami, monsieur le postérieur, il va vous en cuire sur votre postérieur !»
« Ah !» disait l'archer, « monsieur le prieur, mon mignon, monsieur le prieur, que Dieu vous fasse abbé !»
« Par l'habit que je porte, dit le moine, je vais vous faire cardinal ici même. Vous rançonnez les gens de religion, vous aurez un chapeau rouge sur le champ et de ma main. »
Et l'archer criait « Monsieur le prieur, monsieur le prieur, monsieur l'abbé futur, monsieur le cardinal, monsieur le tout, ah, 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 et non, monsieur le prieur, mon bon petit seigneur le prieur, je me rends à vous. »
« Et moi, dit le moine, je te rends à tous les diables. »
Alors d'un seul coup, il lui trancha la tête, en lui ouvrant le crâne au-dessus du temporal, en enlevant les deux pariétaux et la suture sagittale avec une grande partie du frontal.
Ce faisant, il lui trancha les deux méninges et les deux ventricules latéraux du cerveau.
L'autre resta le crâne pendant sur les épaules, retenu par derrière par la peau du péricrâne, à la façon d'un bonnet de docteur, noir au dehors, rouge au dedans. Ainsi, il tomba à terre, raide mort.
Cela fait, le moine donne des éperons à son cheval et se lance sur la trace des ennemis qui avaient rencontré Gargantua et ses compagnons en terrain découvert.
Leurs effectifs avaient tellement diminué à cause de l'énorme massacre qu'avait fait Gargantua avec son grand arbre, Gymnase, Ponocrates, Eudémon et les autres, qu'ils commençaient à se retirer précipitamment, tout effrayés, le sens et l'esprit troublés, comme s'ils avaient eu sous les yeux la réelle et tangible apparence de la mort.
Et, comme vous voyez un âne, quand il a au cul un de ces temps que lâche Junon ou une mouche qui le pique, courir ça et là en tous sens, jetant sa charge à terre, rompant son frein et ses rênes, sans prendre le moins du monde ni respiration ni repos, sans que l'on sache ce qui le prend, puisque l'on ne voit rien qui le touche, de la même façon, ces gens fuyaient, ayant perdu le sens, sans que l'on sût la cause de leur fuite.
Seul les poursuit une terreur panique, terreur qu'ils avaient conçue en leurs âmes.
Le moine, voyant que leur seule préoccupation était d'assurer leur fuite, descend de cheval et monte sur une grosse roche en surplomb du chemin. Avec son grand braquemar, il frappait sur ses fuyards à tour de bras, sans se ménager, sans épargner sa peine. Il en tua tant, en jeta tant à terre, qu'il brisa son braquemar en deux. Alors il se dit en lui-même que c'était assez massacré et tué que le reste devait en réchapper pour emporter la nouvelle. En conséquence, il empoigna la hache de l'un de ceux qui gisaient là, mort,
et retourna sur le rocher, prenant du bon temps à voir les ennemis culbutés dans leur fuite parmi les cadavres. Cependant, à tous, il faisait déposer pique, épée, lance et arquebuse. Quant à ceux qui portaient les pèlerins ligotés, il leur faisait mettre pied à terre et donnait leurs chevaux aux pèlerins en question, qu'il gardait près de lui le long de la haie, avec tout que Dillon, qu'il retint prisonnier. Comment le moine ramena les pèlerins ? Et les bonnes paroles que leur dit Grand Gousier. Cette escarmouche terminée, Gargantua se retira avec ses gens à l'exception du moine, et au point du jour, ils se rendirent auprès de Grand Gousier, qui dans son lit priait Dieu pour leur salut et leur victoire. En les voyant tous sains et saufs, il les embrassa de bon cœur et demanda des nouvelles du moine. Mais Gargantua lui répondit que les ennemis avaient sûrement le moine. « Ils n'auront donc pas de chance, » dit Grand Gousier. Ce qui s'était effectivement vérifié. C'est pourquoi le proverbe « donner le moine à quelqu'un » est encore en usage. Alors il ordonna que l'on prépara un très bon déjeuner pour les réconforter. Quand tout fut prêt, on appela Gargantua. Mais il avait tant de peine de ne point voir le moine de retour qu'il ne voulait ni boire ni manger. Mais subitement, le moine arrive, et depuis la porte de la cour basse, il s'écrie « du vin frais, Gymnaste, mon ami !» Gymnaste sortit et vit que c'était frère Jean qui amenait 5 pèlerins et tout que Dillon prisonnier. Alors Gargantua sortit à sa rencontre. Ils lui firent le meilleur accueil qu'ils pouvaient et le conduisirent devant Grand Gousier, qui l'interrogea sur toute son aventure. Le moine lui raconta tout. Comment on l'avait pris, et comment il s'était débarrassé des archers, comment il avait fait une boucherie sur le chemin, et comment il avait récupéré les pèlerins et ramené le capitaine Touquedillon. Puis ils se mirent à banqueter joyeusement, tous ensemble. Cependant, Grand Gousier demandait aux pèlerins de quel pays ils étaient, d'où ils venaient et où ils allaient. L'as d'Alaire lui répondit pour tous. « Seigneur, je suis de Saint-Genoux en Berry, celui-ci est de Paluau, celui-ci d'Onzay, celui-ci d'Argy et celui-ci de Villebernin. Nous venons de Saint-Sébastien, près de Nantes, et nous rentrons par petite étape. « Bon, dit Grand Gousier, mais qu'alliez-vous faire à Saint-Sébastien ?»« Nous allions, dit l'as d'Alaire, lui offrir nos invocations contre la peste. »« Oh, oh, dit Grand Gousier, pauvres gens, estimez-vous que la peste vienne de Saint-Sébastien ?»« Oui, assurément, répondit l'as d'Alaire. Nos prédicateurs nous l'affirment. »«
Oui, dit Grand Gousier. » Les faux prophètes vous annoncent-ils de telles bourdes ? Blasphèment-ils les justes et les saints de Dieu en des termes qui les assimilent au diable, qui ne font que du mal parmi les hommes ?
Il rappelle Homère qui écrit que la peste fut répandue de l'armée des Grecs par Apollon, et les poètes qui imaginent une multitude de Lucifer et de dieux malfaisants. Ainsi, à Sinée, un cafard prêchait que saint Antoine donnait l'inflammation aux jambes, que saint Eutrope était responsable des hydropiques, saint Gilda des fous, saint Genoux des goutteux. Mais je le punis si exemplairement, bien qu'il me traitât d'hérétique, que depuis ce temps-là, aucun cafard n'a osé pénétrer sur mes terres. Je suis sidéré s'il est vrai que votre roi les laisse prononcer dans son royaume des prédications aussi scandaleuses, car ils sont plus répréhensibles que ceux qui, par l'art de la magie ou d'autres artifices, auraient répandu la peste dans le pays. La peste ne tue que le corps. Mais de tels imposteurs empoisonnent les âmes.
Portant ses tripes dans ses mains, Sa mère est à la tour en haut, qui voit venir son fils Renaud. Renaud, Renaud, réjouis-toi, ta femme est accouchée d'un roi. Ni de ma femme, ni de mon fils, mon cœur ne peut se réjouir. Je sens la mort qui me poursuit, mère, faites dresser un lit. Mais faites-le dresser si bas que ma femme n'entende pas. Guerre de temps, n'y dormirai, à minuit je trépasserai. Et quand ce fut vers la minuit, le roi Renaud rendit l'esprit. Il ne fut pas soleil levé que les valets l'ont enterré. Sa femme, en entendant le bruit, se mit à gémir dans son lit. Ah, dites-moi, ma mère, mamie, ce que j'entends cogner ici. Ma fille, c'est le charpentier qui raccommode l'escalier. Ah, dites-moi, ma mère, mamie, ce que j'entends chanter ici. Ma fille, c'est la procession qui fait le tour de la maison. Ah, dites-moi, ma mère, mamie, ce que j'entends pleurer ici. Ma fille, c'est la femme du berger qui a perdu son nouveau-né. Ah, dites-moi, ma mère, mamie, ce qui vous fait pleurer aussi. Ma fille ne puis le cacher. Renaud est mort et enterré. Ma mère dit aux faux soyeux qu'ils creusent la fosse pour deux et que le trou soit assez grand pour qu'on y mette aussi l'enfant. Terre, fends-toi, terre, ouvre-toi, que j'aille rejoindre Renaud, mon roi. Terre fendit, terre s'ouvrit, et la belle rendit l'esprit.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Retour donc aux aventures de Gargantua. Comme Grand Gousier disait ces mots, le moine entra d'un air décidé et il leur demanda « D'où êtes-vous, vous autres, pauvres hères ?»«
De Saint-Genoux, » dirent-ils.
« Et comment se porte l'abbé Tranchelion, ce bon buveur ?» dit le moine. « Et les moines ?» Quelle chair font-ils ? Cordieu ! Ils biscottent vos femmes pendant que vous pérégrinez vers Rome.
Dit Lance d'Alaire, je n'ai pas peur pour la mienne, car qui la verra de jour n'ira pas se rompre le cou pour la visiter de nuit.
Oh, voilà, dit le moine, un drôle d'atout. Elle peut bien être aussi laide que Proserpine, pardieu, elle aura la secousse, du moment qu'il y a des moines aux alentours. Car un bon ouvrier met indifféremment toutes pièces en œuvre. Que j'attrape la vérole, si vous ne les trouvez pas engrossées à votre retour, car la seule ombre d'un clocher d'abbaye est fécondante.
C'est, dit Gargantua, comme l'eau du Nil en Égypte, si l'on en croit Strabon et Pline, au livre 7, chapitre 3. Pense que cette fécondité est valable pour les céréales, le textile et la génération.
Grand Gousier dit alors, « Allez-vous-en, pauvres gens, au nom de Dieu le Créateur, que celui-ci vous soit un guide perpétuel. Désormais, ne vous embarquez pas pour ces voyages ineptes et inutiles. Entretenez vos familles, travaillez chacun selon votre vocation, instruisez vos enfants et vivez comme vous l'enseigne le bon apôtre saint Paul. Ce faisant, vous serez sous la protection de Dieu, des anges et des saints, et il n'y aura peste ni mal qui puisse vous nuire. » Ensuite, Gargantua les emmena se restaurer dans la grande salle. Mais les pèlerins ne faisaient que soupirer, et ils dirent à Gargantua, « Qu'il est heureux, le pays qui a un tel homme pour seigneur. Nous sommes plus édifiés et instruits par ses propos qu'il nous a tenus que par tous les sermons qui ont pu être prêchés dans notre ville. »
C'est, répondit Gargantua, ce que dit Platon au livre 5 de la République. Les républiques seront heureuses quand les rois philosopheront ou quand les philosophes régneront.
Puis il fit remplir leur besace de vivres, leurs bouteilles de vin, leur donna à chacun un cheval pour leur adoucir le reste du chemin et quelques carolus pour vivre.
Comment Grand Gousier traita humainement tout que Dion prisonnier.
Tout que Dion fut présenté à Grand Gousier qui l'interrogea sur les desseins et les menées de Picrocole et lui demanda à quoi tendait cette retentissante agression. À cela, il répondit que son but et sa vocation étaient de conquérir tout le pays, s'il le pouvait, pour prix de l'injustice faite à ses foissiers.
C'est trop d'ambition, dit Grand Gousier.
Qui trop embrasse, mal étreint. Le temps n'est plus de conquérir ainsi les royaumes en causant du tort à son prochain, à son frère chrétien. Imiter ainsi Hercule, Alexandre, Hannibal, Scipion, César et autres conquérants antiques et incompatibles avec le fait de professer l'Évangile qui nous commande de garder, de sauver, de régir et d'administrer nos propres terres et non d'envahir celles des autres avec des intentions belliqueuses.
Ce que jadis les Sarrasins et les Barbares appelaient des prouesses, nous l'appelons maintenant brigandage et sauvagerie.
Picrocole eût mieux fait de rester en ses domaines et de les gouverner en roi que de venir faire violence aux miens et de les piller en ennemis. Bien gouverné, les eût enrichis, me piller les détruira.
Allez-vous-en, au nom de Dieu. Suivez une bonne voie. Faites remarquer à votre roi les erreurs que vous décèlerez et ne conseillez jamais en fonction de votre propre profit, car la perte des biens communs ne va pas sans celle des biens particuliers.
Pour ce qui est de votre rançon, je vous en fais don entièrement. Et à ma volonté, on vous rendra vos armes et votre cheval.
C'est ainsi qu'il faut agir entre voisins et amis de longue date. Vu que ce différend qui nous oppose n'est pas vraiment une guerre. Ainsi Platon, au livre 5 de la République, ne voulait pas que l'on parlât de guerre mais de troubles internes, quand les Grecs prenaient les armes les uns contre les autres.
Si par malheur la chose arrivait, il prescrit d'user d'une totale modération.
Même si vous parlez ici de guerre, elle n'est que superficielle. Ce différend n'entre pas dans le plus profond de nos cœurs, car nul d'entre nous n'est blessé en son honneur. Il n'est question en tout et pour tout que d'effacer quelques fautes commises par nos gens, j'entends les vôtres et les nôtres.
Et encore que vous la connussiez, vous eussiez dû la laisser passer, car les acteurs antagonistes étaient plus dignes de mépris que de mémoire, surtout de dédommager comme je leur avais proposé.
Dieu sera le juste arbitre de notre différend et je le supplie de m'arracher à cette vie et de laisser mes biens dépérir sous mes yeux plutôt que de le voir offensé en quoi que ce soit par moi-même ou par les miens.
Sur ces paroles, il appela le moine et devant tout le monde lui demanda « Frère Jean, mon bon ami, est-ce vous qui avez pris le capitaine Touquedillon ici présent ?»
« Sire, dit le moine, il est présent. Il a l'âge de raison. J'aime mieux que vous l'appreniez sur sa parole que de ma bouche. »
Alors Touquedillon dit, « Seigneur, la vérité est que c'est lui qui m'a pris, et je me rends à lui sans réticence. »
« Lui avez-vous assigné une rançon ?» demanda Grand Gousier au moine.
« Non, dit le moine, je ne me soucie point de cela. »«
Combien, dit Grand Gousier, demanderiez-vous pour sa prise ?»«
Rien, rien, dit le moine. Ce n'est pas cela qui me fait agir. »
Alors Grand Gousier ordonna qu'en présence de Touquedillon, 62 000 saluts d'or fussent comptés au moine pour cette prise. Ce qui fut fait pendant qu'on faisait une collation pour le dit Touquedillon. Grand Gousier lui demanda s'il voulait rester avec lui ou s'il aimait mieux retourner auprès de son roi. Touquedillon répondit qu'il prendrait le parti qu'il lui conseillerait.
« En ce cas, dit Grand Gousier, retournez auprès de votre roi, et que Dieu soit avec vous. » Puis il lui donna une belle épée de Vienne avec son fourreau d'or décoré de beaux pampres d'orfèvrerie, un collier d'or pesant 702 000 marques, garni de fines pierreries estimées 160 000 ducats, plus, en manière de présent horrifique, 10 000 écus. Après cette conversation, Touquedillon monta sur son cheval. Pour sa sécurité, Gargantua lui donna 30 hommes d'armes et 120 archers conduits par Gymnaste, pour l'accompagner jusqu'aux portes de la roche Clermont et parer à toute éventualité. Quand il fut parti, le moine rendit à Grand Gousier les 62 000 saluts qu'il avait reçus en disant « Sire, ce n'est pas en ce moment que vous devez faire de pareils dons. Attendez la fin de cette guerre, car on ne sait quels événements pourraient se produire et une guerre menée sans une bonne réserve d'argent n'a qu'un mince souffle de vigueur. Le nerf des batailles, ce sont les finances. »
« Alors, dit Grand Gousier, je vous honorerai à la fin d'une juste récompense, vous et tous ceux qui m'auront bien servi. »
Comment Grand Gousier mobilisa ses légions et comment Touquedillon tua Astivaux puis fut tué sur ordre de Picrocole.
Dans le même temps, ceux de Bessé, du Vieux-Marché, du Bourg-Saint-Jacques, du Traîneau, de Parilly, de Rivière, des Roches-Saint-Paul, du Vau-Breton, de Pontille, de Bréhémont, du Pont de Clame, de Cravant, de Grandmont, des Bourdes, de La Ville-aux-Mers, de Huisme, de Segré, d'Ussé, de Saint-Louan, de Panzoult, des Coudreaux, de Véron, de Coulaines, de Chouzé, de Varennes, de Bourgueil, de l'île Bouchard, du Croulet, de Narçay, de Cande, de Montsoreau et d'autres localités voisines, envoyèrent des délégations auprès de Grand Gousier pour lui dire qu'ils s'étaient avertis des torts que lui causait Picrocole et qu'en vertu de leur ancienne alliance, ils lui offraient tout ce qui était en leur pouvoir, tant en hommes qu'en argent et autres fournitures de guerre.
Le total de leur argent s'élevait d'après leur compte à 134 000 2 écus et demi d'or. Les troupes comptaient 15 000 hommes d'armes, 32 000 chevaux légers, 89 000 arquebusiers, 140 000 mercenaires, 11 200 canons, double canon, basilic et spirole, 47 000 fantassins. Le tout avec solde et ravitaillement pour 6 mois et 4 jours. Gargantua ne refusa ni n'accepta totalement cette offre. Mais il leur dit, en les remerciant chaleureusement, qu'il conduirait cette guerre de telle façon qu'il ne serait pas nécessaire de mobiliser autant d'honnêtes gens. Il dépêcha seulement des émissaires pour ramener en bon ordre les légions qu'il entretenait d'ordinaire en ses places de la Devinière, de Chavigny, de Gravaux et de Quinquennet, qui comptaient 2 500 hommes d'armes, 66 000 hommes de pied, 26 000 arquebusiers, 200 grosses pièces d'artillerie, 22 000 fantassins et 6 000 chevaux légers, tous par compagnie, si bien pourvus d'intendants, avec leurs vivandiers, leurs maréchaux, leurs armuriers et les autres personnes indispensables au train de guerre, si bien instruites en l'art militaire, si bien équipées, reconnaissant et suivant si bien leurs enseignes, si promptes à comprendre leurs capitaines et à leur obéir, si vives à la
course, si rude à l'assaut, si prudente à la progression, qu'elle ressemblait plus à une harmonie d'orgue ou à un mécanisme d'horlogerie qu'à une armée ou à un corps de troupes. À son arrivée, Touque Dillon se présenta à Picrocole et lui raconta en détail ce qu'il avait fait et vu. À la fin, il lui conseillait fortement de conclure un arrangement avec Grand Gousier. Il avait trouvé que c'était le plus grand homme de bien du monde, ajoutant qu'il n'y avait ni profit ni raison à malmener ainsi ses voisins, dont il n'avait jamais retiré que du bien essentiellement, et que jamais il ne sortirait de cette aventure qu'à leur perte et pour leur malheur, car la puissance de Picrocole n'était pas telle que Grand Gousier ne le pût aisément massacrer. Il n'avait pas achevé ses paroles que Astiveau dit en haussant la voix « Oh, il est bien malheureux, le prince, que servent de telles gens si faciles à corrompre. Je comprends que Touque Dillon est de ceci, car je vois que son attitude est tellement changée qu'il se serait volontiers joint à nos ennemis pour lutter contre nous et nous trahir, s'ils avaient voulu le retenir. Mais de même que la vertu est louée et estimée de tous, tant d'amis qu'ennemis, de même la perfidie est vite reconnue et manifeste. Et à supposer que les ennemis en usent à leur profit, ils ont toujours en horreur les perfides et les traîtres. » À ces mots, Touque Dillon, hors de lui, tira son épée et en transperça Astiveau un peu au-dessus de la mamelle gauche. Il en mourut sur le champ. Retirant son arme, Touque Dillon dit avec assurance « Qu'ainsi périsse qui blâmera les loyaux serviteurs. » Picrocole entra subitement en fureur et dit, en voyant l'épée et son fourreau ainsi diaprés, « T'avait-on donné cette arme pour en ma présence tuer diaboliquement mon si bon ami Astiveau ?» Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc ces aventures de Gargantua que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.